Ok, et eh ben on va démarrer. Je reçois aujourd'hui Pierre Sablon, qui a 57 ans, si je ne me trompe pas, Pierre, et qui est malvoyant depuis l'âge de 10 ans.
C'est juste.
C'est juste, bien. Pierre, tu es né en Guadeloupe. J'aimerais bien que tu me parles un petit peu de cette enfance en Guadeloupe et de... Comment s'est passé en fait tes premiers pas de malvoyant dans ton île?
Alors, tout d'abord, Claire, je vais rectifier. Je ne suis pas malvoyant.
Oui.
Je suis non-voyant.
Oui.
J'ai été malvoyant.
Mmh.
Je suis né en Guadeloupe en 1965, famille de 8.
Mmh.
Il y a trois aveugles. Enfin. Deux aveugles et un malvoyant, le malvoyant que j'étais.
Mmh.
Dès l'âge de 17 mois, je suis parti en métropole pour me faire opérer des yeux. Et j'ai dû quitter mes parents. Là, j'ai failli être adopté ou gardé parce qu'il y avait une famille... je ne m'en rappelle pas, c'est ma maman qui m'a relaté cela.
Ouais.
Christian Le Breton qui voulait me garder, qui était prêt, je sais pas, à donner des sous à mes parents, tout ça.
T'étais mignon, adorable à ce point-là, alors ?
J'étais... à l'époque, j'étais...
On voulait t'acheter ?
À l'époque, j'étais mignon, donc on voulait m'acheter. Et j'avais un oncle qui incitait mon père à me céder, parce que comme j'étais malvoyant, pour lui, j'étais une bouche à nourrir qui ne servait pas à grand-chose.
Ouais.
Ma grand-mère, c'est pareil, elle aussi. Elle disait que j'étais qu'une charge, que je grandirais et mourrais entre mon père et ma mère. Donc, elle incitait mes parents à se séparer de moi. Mon père et ma mère, les deux, ils ont décidé que malgré le fait que je sois en situation de handicap, je devais grandir, chose normale, entre mes frères et sœurs. Et donc, j'ai été la première personne en situation de handicap, le premier malvoyant de la famille. Et j'ai débroussaillé la route pour les deux autres non-voyants qui venaient après.
Oui.
Parce qu'à cette époque-là, c'était pas chose facile. D'ailleurs, on ne disait pas en situation de handicap ou handicapé, on disait infirme. Oui. Donc, le mot était déjà beaucoup plus lourd.
Oui. Et cette... maladie, en fait, qui était dans ta famille, c'était quelque chose de génétique ou c'était autre chose? Vous avez pu savoir parce que vous êtes quand même trois enfants atteints, c'est ça?
Nous sommes trois personnes atteintes d'un glaucome congénital.
D'accord.
Donc, c'est pas héréditaire, c'est lors de la grossesse.
Mmh.
Et même... mes autres frères et sœurs, donc, ils n'ont rien. Et mes enfants, parce que voilà, j'ai des enfants.
Oui.
Mes enfants n'ont rien, mes petits-enfants n'ont rien.
Mmh. Bien. Tu as senti ta différence très tôt ?
Ah oui. Ah oui, parce que, en Guadeloupe, je vivais à la campagne parce que mon père était un cultivateur. Donc, déjà, aller s'occuper des bêtes, je voyais moins bien que les autres. Je me cassais plus souvent la figure ou je me prenais plus facilement des branches ou des choses dans le visage. Les autres voyaient ma différence. Et de ce fait, je n'étais pas toujours accepté parce que, je sais pas, ils voulaient pas... Soit certains membres de ma famille ne voulaient pas s'afficher en ville avec un malvoyant, parce qu'ils avaient honte.
Oui.
Et des camarades de jeu ne voulaient pas forcément de moi, parce qu'ils ne voulaient pas d'un malvoyant que j'étais à l'époque.
Tu te sentais considéré comme une charge ?
Oui.
Oui.
Oui, oui, à l'époque, oui, j'étais une charge. Et donc, mais tout ça déjà, ça m'incitait à vouloir leur prouver que j'étais capable d'eux.
Oui.
J'étais capable de les mots de ma grand-mère. Il ne faudrait pas que ma maman l'entende parce qu'elle n'aimerait pas ça. Mais tout ça, ça m'incitait à leur montrer que j'étais capable de faire comme eux ou de m'y approcher.
Oui, en tout cas, tu m'as dit quand on a préparé cette émission que un des mots les plus importants pour toi, c'est le verbe oser.
Tout à fait. Tout à fait.
On verra dans la suite de l'interview qu'en effet, tu es pas le dernier à oser beaucoup de choses. Je crois que sur ta route, dans ton enfance, il y a eu quelqu'un qui t'a permis d'évoluer de façon très positive, ton institutrice, c'est ça?
Oui, en Guadeloupe, j'étais au CP, d'ailleurs j'ai redoublé mon CP pour la bonne cause, parce que cette institutrice attentive s'est rendue compte que j'avais des problèmes de vue, et elle a dit à mes parents, je vais garder votre fils une année de plus, ainsi on va faire les dossiers pour qu'il puisse gagner la métropole, pour avoir une scolarité spécialisée. Et pendant 2 ans, Madame Mathurin, je me rappelle encore d'elle, et le directeur de l'école primaire ont tout fait avec mes parents pour que je puisse partir pour Clermont-Ferrand, parce que c'était là où on envoyait beaucoup d'Antillais.
Et parce que ça veut dire qu'à l'époque, en Guadeloupe, pour les personnes non-voyantes ou malvoyantes, il n'y avait absolument rien
Il n'y avait pas
de
d'école.
prévu.
Tout à fait. Il n'y avait pas d'école spécialisée. Il n'y avait pas d'école spécialisée. D'ailleurs, à chaque élection, le président qui voulait essayer d'avoir des voix promettait toujours une création d'école pour les Antilles-Guyane. J'ai 57 ans, il n'y a toujours pas d'école.
Ouais, c'est ahurissant quand même.
Mmh.
Donc tu t'es retrouvé à Clermont-Ferrand. Ça a dû être un choc quand même énorme pour toi, parce que tu t'es retrouvé tout seul, t'avais quel âge?
J'avais 8 ans, j'ai quitté la Guadeloupe pour me retrouver là-bas, au cœur de l'Auvergne, dans le froid,
Oui,
avec
quel
des
choc.
parents qui n'avaient pas la notion de ce que c'était que le froid. Alors, bien souvent, quand on débarquait des îles, on avait une petite couverture d'Air France, que Air France nous cédait pour qu'on puisse avoir chaud, parce qu'on n'avait ni pull, ni rien. Et je suis arrivé donc à l'école de Clermont-Ferrand, dans une école tenue par des religieuses. Et là, tout de suite, on m'a mis au braille,
Oui.
parce que bon, c'était des manières de faire de l'époque. Et j'ai eu une sœur aussi qui, à coup de ceinture, je dois le dire, m'inciter à oublier le créole pour, selon elle, mieux parler le français.
Ça aussi,
Sœur
c'était quelque chose
Cécile.
de l'époque, oui.
Ouais, Cécile. Oui, c'était. Ça faisait partie de leur enseignement de l'époque.
Et donc dans cette école, tu as commencé finalement à aller vers une autonomie intellectuelle en tout cas, mais tu m'as dit aussi que tu avais connu à l'époque des éducateurs qui physiquement en fait t'encourageaient à oser faire des choses qu'on ne penserait pas faisables par quelqu'un qui ne voit pas.
Oui, alors il y a eu de tout. Il y a eu des moniteurs. Bon, moi, je dirais qu'ils étaient des fois plutôt dignes à garder des chèvres dans la montagne, parce qu'ils n'avaient pas de, ils avaient pas de psychologie.
Oui.
Mais en revanche, on a eu des éducateurs qui, c'était des éducateurs spécialisés qui avaient suivi une formation. Et ces éducateurs-là, là, avec eux, ils nous ont appris à oser, à se motiver, à se dépasser. Tout de suite, nous allions marcher, faire des randonnées dans la montagne. Nous allions faire du tandem, du ski, faire diverses activités comme ça, où on devait se dépasser. Et ça c'était chouette. Nous devions aussi nous gérer durant les week-ends, parce que bon, eh bien, l'école était restée ouverte pour les ultramarins.
Oui, bien sûr, toi, tu pouvais pas rentrer
Je
le
pouvais pas
week-end,
rentrer dans ma famille.
oui.
L'école restait ouverte durant les week-ends et pendant les vacances. Et là, on a dû aussi apprendre à à se faire à manger, à gérer un budget.
Oui, l'apprentissage de la vie quotidienne.
Tout à fait.
Et à cette période-là, tu rentrais quoi, une fois par an, voir ta famille ?
Je quittais la Guadeloupe début septembre et je regagnais la Guadeloupe vers le 30 juin. J'allais pendant 2 mois retrouver mes frères et sœurs.
Et alors, c'est ce 30 juin-là, c'était quoi ? C'était l'excitation, la libération ou...
Ah, c'était magique.
C'était magique.
C'était magique parce que, bon, déjà, moi, en tant que malvoyant, j'imaginais déjà, avant de partir, les flamboyants en fleurs dans les îles. Parce que chez nous, les flamboyants... au mois de juin, commence à fleurir et ça indique aux enfants que c'est les grandes vacances qui arrivent. Mmh. Donc déjà, de la métropole, j'imaginais ça. Après, j'étais attendu comme le Messie par mes frères et sœurs parce qu'ils savaient que j'allais apporter de nouveaux jeux, que j'arrivais avec aussi mon accent auvergnat parce que, bon, eh bien, rester pendant un an à Clermont-Ferrand... Je savais dire la place de Jaude.
et puis aussi, j'imagine que tu étais assez fier de montrer tous tes progrès.
Ah oui. Oui, aussi, c'est vrai que de montrer que je gagnais en autonomie, que et bien, selon les dires de ma grand-mère, que j'apprenais à faire des choses.
Ouais.
À faire des choses, oui.
Ouais. Finalement, tu étais un petit jeune homme qui était déjà drôlement adulte, alors, et assez indépendant.
J'essayais. Oui. J'essayais de l'être, et j'essayais chaque fois de mettre en application les choses que j'avais l'occasion d'apprendre à Clermont-Ferrand, sauf la cuisine, parce que, bon, bien dans la cuisine, la mère antillaise ne laisse pas les enfants rentrer dans la cuisine, donc... Là,
oui, puis j'imagine que ça faisait quand même partie du plaisir de te faire chouchouter comme un petit coq en pâte quand tu rentrais chez toi.
Oui.
Cette période à Clermont-Ferrand, elle s'est, arrêtée à peu près au moment de ton bac, c'est ça ? Et tu es venu à Nantes après ? Raconte-moi un peu cette période-là, en fait, où tu as quitté l'école.
Alors, Clermont-Ferrand, ça s'est arrêté à 18 ans.
Oui.
À 18 ans, j'ai voulu quitter Clermont-Ferrand parce que j'étais trop bien. J'étais chouchouté. On voulait me garder. Mais j'avais envie de rompre avec ce côté cocooning de l'école pour déjà commencer à apprendre à vivre encore plus éloigné des personnes que j'aime, pour commencer à m'insérer. Donc de ce fait, j'ai voulu quitter Clermont-Ferrand pour me rendre à Nantes. Mais avant de quitter Clermont-Ferrand, je dois dire aussi, j'ai beaucoup apprécié à Clermont-Ferrand de faire de la locomotion. La locomotion, c'est l'apprentissage de la canne blanche.
Oui.
Là, nous avions un instructeur en locomotion qui était vraiment génial, avec qui beaucoup de non-voyants, dont moi, nous avons eu des grandes colères parce que, bon, bien, combien de fois on a été énervé de louper le bus ou de se perdre, tout simplement,
ouais.
Ou de se prendre un poteau pendant qu'on apprenait à utiliser la canne blanche et que lui, il arrive derrière en disant « Tu l'as vu, le poteau ?» Voilà. Et donc, après l'apprentissage locomotion, j'ai quitté Clermont-Ferrand parce que bon, eh bien, j'ai voulu faire une formation pour être autonome. Parce que nous étions 8 enfants, mes parents n'étaient pas fortunés, je voulais ne plus dépendre d'eux financièrement.
Oui.
Donc faire une formation courte pour commencer à travailler et être autonome. Donc je suis venu à Nantes, à l'Institut des Hautes et Baudières. Cela s'appelait ainsi... Naguère. C'est à Vertou. Mmh. J'ai suivi une formation de standardiste trilingue et après, au bout de 2 ans, diplôme en poche, je me suis retrouvé sur le marché du travail.
Ouais.
D'ailleurs, je me rappelle encore quand je suis allé à la NPE me présenter, faire mon dossier, la première réflexion de la conseillère en disant j'étais avec une amie. disant « Mais des aveugles comme vous, c'est dans des CAT que ça se met. »
Ah.
Ça se... Et l'ami m'a posé la main sur le bras, elle me dit « Laisse, je vais répondre. » Et en fait, elle s'est chargée de la recadrer.
Oui.
Et j'ai préféré, parce que bon, moi j'aurais été plus virulent, donc j'ai préféré ça. Et mais en partant, je lui ai juré que je trouverais du travail
sans
avoir à faire appel à la NPE de l'époque.
Ouais.
C'était aussi un défi, parce que je ne savais pas où cela allait me mener, mais je voulais avoir, tenir cet engagement-là. Et d'autant plus que... Quand j'étais à Clermont-Ferrand, j'ai omis de dire qu'à 12 ans, j'ai perdu la vue. Là, je suis devenu donc aveugle.
Aveugle, oui.
Et en devenant aveugle, je me suis fait opérer en même temps d'une scoliose. Donc, je me suis retrouvé alité, non agité, parce que là, je ne pouvais pas trop être agité.
Tu étais peut-être très agité dans ta tête et dans ton cœur pendant que tu étais très alité sans bouger.
Peut-être. Et donc, c'est vrai que j'étais agité. Et durant un an, j'étais hospitalisé, je ne pouvais pas bouger. Je me suis fait opérer d'une scoliose et en quittant l'école, il y avait un éducateur qui m'apprend devant tous les élèves que mes parents venaient de se séparer. Ça, c'était pas très subtil de sa part. Mmh. Mais là, je m'étais juré que dans la vie, je me battrais toujours.
Te laisserais pas faire.
Je me laisserais pas faire et que je saurais avancer et contourner les obstacles.
Mais quand tu racontes ton histoire, ce qu'on entend, c'est que tu es quelqu'un qui va vers le risque, en fait, hein, et qui... Alors, tu as peut-être peur, mais ça, tu le diras pas forcément. Mais tu oses te dépasser, tu te lances des défis en permanence. Rien n'est impossible, en fait, pour toi.
Oh, si. rien n'est impossible. Je sais qu'il ne me sera pas possible de sauter à l'élastique.
Oui, enfin, excuse-moi, on en parlait dans la voiture tout à l'heure, de sauter à l'élastique, et tu me disais qu'éventuellement, pour sauver un petit enfant malade, quand même, tu le ferais.
Oui, ça, je pourrais le faire. Bon, mais je préfère ne pas avoir à le faire. Bon.
Non, bien sûr,
il y
a des limites, mais bon, c'est quand même quelque chose de très concentré, très fort chez toi, cette façon de te lancer des défis.
Alors, oui, le risque, quand nous parlions du risque, je pense qu'en étant en situation de handicap, on se lance des défis, mais on est obligé aussi de se lancer des défis parce que sinon, on n'avance pas. On n'avance pas parce que, quand je parlais de locomotion, c'est en arrivant à Nantes, il a fallu que j'apprenne sur le bout des doigts la ville de Nantes.
Oui.
Il a fallu que je me décide à traverser la rue.
Oui, alors justement, tu me sers ma petite transition sur un plateau, Pierre, et je t'en remercie. Parce que Pierre et moi, nous avons fait une petite expérience. Nous nous sommes retrouvés cours des 50 otages à la station de tramway. Et Pierre m'avait apporté une canne blanche et un bandeau. Et nous sommes partis en exploration dans la ville. Alors j'ai supplié Pierre de pas me laisser traverser le cours des 50 otages avec les yeux bandés, j'avais trop peur. Donc on a traversé ensemble, moi les yeux ouverts. Et puis ensuite on a mis le bandeau, j'ai pris la canne blanche et on va écouter ce que ça donne. Voilà, donc dans cette expérience que nous avons faite, vous avez... pu l'entendre, que Pierre a une technique très précise, en fait, pour se repérer. Et j'avoue que moi, j'ai été absolument bluffée, Pierre, de la façon dont tu utilises tous tes sens, hein, de comprendre qu'il y a une rue sur la droite parce qu'on sent l'air sur son visage, en fait, toutes ces choses. Ça, c'est l'éducateur dont tu parlais, là, l'éducateur de Nantes, qui t'a appris à reconnaître tout ça et à... Parce que tu as vraiment... Tu connais la ville comme ta poche, c'est impressionnant. Hein.
C'est l'instructeur de locomotion qui m'a appris la technique pour apprendre à se déplacer, apprendre à écouter. En tant qu'aveugle, je savais écouter, mais j'ai appris à écouter, appris à écouter mon environnement et m'appuyer sur mon environnement pour me déplacer. Quand on marche, c'est vrai que des fois, les gens. Des gens m'ont arrêté dans la rue en me disant Ah, monsieur, vous savez, faites attention, il y a un poteau devant vous. Ah, je suis désolé, je vous ai interrompu parce que vous étiez en train de compter vos pas. Alors, des fois, en rigolant, je lui dis Oui, 10 915. Ah, je suis obligé de repartir. Je ne sais plus si c'est 15 ou 14. Donc, je suis obligé de repartir. Non, je ne compte pas mes pas.
Oui.
Je ne compte pas mes pas, simplement, je m'appuie sur l'effet des masses quand je me déplace. C'est-à-dire, c'est comme si j'étais une chauve-souris, où mon oreille suivait le mur qui est à côté de moi. Et quand il n'y a plus de mur, je sais que ça peut être un porche ou que la rue va tourner à gauche ou à droite.
Ouais.
Ça fait partie des techniques pour se déplacer. Et aussi, pour se déplacer maintenant, j'utilise depuis environ, je crois, 4 ans, une canne blanche électronique que je n'avais pas emmenée lors de la sortie.
Oui.
Parce que je voulais que tu vives vraiment l'émotion de la canne blanche
brut.
Et brute, sans soutien de la technique.
Oui.
Hormis la technique de la canne. Mais cette canne blanche électronique permet de détecter les obstacles à une distance de 2, 4 et 6 mètres. Sans avoir à taper dessus, on sait qu'il y a quelque chose. Et après, à partir de là, on rectifie son déplacement.
D'accord. Donc, c'est quelque chose d'assez nouveau, ça ? J'imagine que tu n'avais pas ça dans les années 80.
Alors, ça existe depuis longtemps.
Ouais.
Mais moi, je l'ai depuis 4 ans. Mais ça existe, ça a été créé il y a environ 25 ans, je crois.
Et c'est un confort supplémentaire pour toi ?
C'est un confort parce que de plus en plus, bien, les voitures vont devenir silencieuses.
Ouais.
Le fait de détecter qu'il y a une voiture devant moi, bon, ça ne m'indiquera pas forcément qu'il y a une voiture silencieuse qui vient relativement vite à gauche ou à droite, mais ne serait-ce pour traverser une rue, ça aide. L'autre jour, je me suis retrouvé à traverser à Mangin. Mmh. Eh bien, quand je dis oser et relever des défis,
ouais.
Je me suis retrouvé à traverser entre un bus et un camion. Ah, ouais. Et là, il faut croire en soi.
Mmh.
Et il faut espérer que le chauffeur soit pas aveugle. Et après, être vigilant parce que, bon, eh bien... Le bus ou le camion cache un peu la visibilité des voitures qui vont dans l'autre sens. Donc, il faut être vraiment sur ses gardes. Mais c'est un défi.
Oui. Alors justement, quels sont les grands défis de la vie quotidienne en tant qu'aveugle ? Pour toi, en tout cas.
Les déplacements.
Mmh.
Les déplacements, parce que bon, bien se retrouver dans un lieu inconnu, essayer de se repérer dans un lieu inconnu. Mais une chose que j'apprécie des fois, c'est me retrouver... c'est tel un marin. Se retrouver dans un lieu, ne pas connaître, avancer à l'aveuglette, mais arriver au port.
Mmh.
Et ça, bon, pour moi, c'est un jeu, mais je trouve ça chouette, en fait.
Oui, tu en tires une vraie satisfaction personnelle.
Tout à fait. Tout à fait. Et d'ailleurs, quand je parle de défis, eh bien, souvent on m'a proposé des choses parce que bon, eh bien, les amis savent que j'aime les défis. En 2019, quand je parlais de marin,
oui.
J'ai des amis qui m'ont proposé de participer au championnat de voile pour aveugles au Canada. Et je suis parti. Bon, ils voulaient quelqu'un de non expérimenté.
Oui.
Donc je me suis retrouvé. À participer au championnat de voile pour aveugles et on a terminé médaille de bronze, donc c'était pas mal. J'aime ce type de défi.
Et tu as aimé cette expérience de la mer ?
Oui.
Ça devait être extrêmement fort pour
oui,
toi.
Oui, si, c'était, j'ai beaucoup aimé. Ou pour mes 50 ans, mes amis m'ont offert aussi un stage de pilotage d'avion.
Oui, tu m'en avais parlé, oui.
Ça, je trouve ça chouette aussi. C'est des défis. C'est essayer de se dire, il faut essayer.
Il faut essayer.
Il faut essayer, ouais. il faut pas s'interdire de le faire.
Ouais, ne pas se mettre de barrière.
Ne pas se mettre de barrière, essayer.
Et tu l'as conduit, cet avion?
J'ai piloté cet avion, c'était un DR-400. Nous sommes partis de Saintes. J'ai fait une semaine de formation avec une association qui s'appelle les Miro Volants. Nous sommes partis de Saintes et j'ai survolé la Garonne. Voilà, c'était chouette.
Et tu avais quelqu'un à côté de toi pour te décrire le paysage?
J'avais mon pilote et mon amoureuse qui était malade derrière.
Elle était malade de trouille ou elle avait le...
Je pense que c'était peut-être les deux.
J'aimerais que tu me racontes un petit peu comment tu as construit ta vie d'adulte. Donc, on reparle sur ce rendez-vous maudit à la NPE avec cette personne qui ne comprenait absolument rien. Donc, tu es sortie de là, tu t'es dit « j'ai mon diplôme en poche » et donc tu as fait comme tout le monde. Tu as envoyé des CV et tu as eu des entretiens et tu as décroché ton premier boulot. Raconte-moi ça.
Alors, oui, je suis sortie de là, j'ai envoyé des centaines de lettres.
Oui.
Parce que il y avait pour les personnes en situation de handicap, on n'embauche pas comme ça. Donc j'ai envoyé des centaines de lettres et un jour j'ai eu un entretien et l'entretien s'est bien déroulé. Et là quelques mois après, j'ai su que j'étais embauché pour travailler dans une administration. Et dans cette administration, j'y suis depuis 35 ans. Mmh. J'ai été médaillé, d'ailleurs. depuis 35 ans. Mais les défis, c'est comment j'ai construit ma vie d'adulte. C'est un peu comme tout le monde, hein, je dirais, trouver un travail, en tâtonnant, bien sûr, parce que voilà. Mmh. Trouver un appartement en y allant avec des copains pour essayer de repérer un peu le quartier. Oui. J'ai souvenir qu'en cherchant un appartement, le premier appartement que je cherchais, l'agent immobilier, il m'a mis un appartement qui... C'était un ancien cabinet de médecin. Alors, je me retrouvais avec une chambre qui n'avait ni fenêtre. Ah. Je lui ai dit, mais attendez, mais il n'y a pas de fenêtre dans cette chambre. Il me dit, mais vous êtes aveugle, ça ne vous sert à rien. Ah. Et donc, c'est des anecdotes comme ça. Mais j'ai fini par trouver un appartement. Et après, petit à petit, pas à pas, j'ai avancé. J'ai avancé.
Et t'es devenu papa. J'aimerais bien savoir ce que c'est que d'être un papa qui ne voit pas. Est-ce que t'as pu t'occuper de tes nourrissons comme n'importe quel autre père?
Oui. Ma compagne... Déjà, elle était ravie parce que du fait que je ne vois pas, je dors très peu. Mmh. Alors, elle était ravie parce que, déjà, je faisais le ménage durant la nuit. Donc ça, elle appréciait. J'étais pas obligé d'allumer la lumière. Après, j'ai eu trois enfants, Mathilde, Pierre-Olivier et Maëva. Les enfants, pour eux, il n'y a pas eu de souci. Il n'y a pas eu de souci, hormis le fait d'avoir fait du jus de pomme à la place du lait dans le chocolat de Mathilde, oui. Hormis le fait d'avoir brossé les dents de Maëva avec une crème pour les pieds, parce que je croyais que c'était le tube de dentifrice. Mais il n'y a pas eu de souci, mes enfants, ils se responsabilisaient pas mal,
ouais.
Et ils avaient confiance... confiance en moi.
Et toi, tu te faisais confiance.
Et moi, je me faisais confiance aussi. Donc, sans problème, je me promenais dans les rues de Nantes avec mes enfants sur mon dos.
Oui.
Ça, c'est toujours bien. Ça s'est toujours bien passé. Il n'y a jamais eu... Je ne les ai pas brûlés. Rien. Il n'y a pas eu d'accident.
Tu ne les as pas traumatisés.
Je ne les ai pas traumatisés.
Comment... Je crois que tu as mené un certain nombre de combats pour améliorer la condition des malvoyants et des non-voyants, notamment au sein d'une association qui s'appelle les Joyeux Miro, c'est ça? Est-ce que tu peux me parler un petit peu plus de cette association?
Les Joyeux Miro. Les Joyeux Miro est une association qui existe depuis 2001. C'est une association qui a pour but de lutter contre l'isolement dans lequel sont murées les personnes en situation de handicap visuel. Et j'ai été coopté pour prêter main forte à cette association. Et durant 12 ans, j'ai été secrétaire de cette association. J'ai mis en place aussi des voyages pour cette association. J'ai amené des personnes non-voyantes, malvoyantes et voyantes au Sénégal, en Thaïlande, en Afrique du Sud et d'autres endroits aussi. C'est une association qui a besoin aussi des personnes voyantes. S'il y a des personnes voyantes qui veulent prêter main forte, on a besoin des personnes voyantes parce que ça nous permet d'avoir des guides pour accomplir toutes les activités.
Oui, bien sûr. Et alors, quand on a fait notre expérience là en ville, tu me disais que ça t'arrivait assez régulièrement d'être guide pour d'autres personnes non-voyantes, pour les aider à se repérer dans la ville. Ça, c'est des choses que tu faisais au sein de l'association ou tu fais...
Alors, au sein de l'association, lors des voyages, je me suis retrouvé avec des personnes non-voyantes qui, soit elles avaient une mauvaise technique pour se déplacer, pour s'orienter. Donc, j'ai essayé de leur apprendre des choses, de leur faire profiter de mon expérience. Et aussi, dans la ville de Nantes, des personnes non-voyantes qui sont arrivées ont fait appel à moi par le biais de réseaux pour leur faire leur premier pas dans la ville de Nantes, leur expliquer le principe du tramway, se repérer.
Ouais.
Donc plusieurs fois j'ai fait ça. J'ai aussi créé une association avec mon amie Béatrice qui s'appelle Audiard. C'est une association, on a la petite volonté de faire des sorties culturelles et des sorties en ville audio-décrites. Et aussi, ce qu'on a fait pour améliorer la vie des personnes non-voyantes, c'est durant la Covid, avec des amis, lectrices, Anne-Claude, Cathy et ma fille Maëva, nous avons créé des groupes. J'ai créé des groupes sur WhatsApp. Et là, j'ai contacté des personnes non-voyantes et je leur donnais des rendez-vous lecture. Donc là, on était en 5 à peu près et on se retrouvait à faire une lecture et après à commenter cette lecture. Donc ça permettait aux personnes non-voyantes qui n'avaient pas l'opportunité de pouvoir se déplacer aisément dans leur rayon d'un kilomètre,
bien sûr.
De pouvoir se déplacer au moins dans leur tête.
Oui, de sortir un peu de l'isolement.
De l'isolement.
Qu'est-ce que tu penses de la façon dont la ville de Nantes... permet l'accès pour les personnes non-voyantes et malvoyantes? Est-ce que tu penses que c'est suffisant? Enfin, bon, c'est rarement, les choses sont rarement suffisantes, mais est-ce que tu penses que c'est bien fait ou il y a encore des progrès à faire?
Il y a toujours des progrès à faire.
Oui.
Il y a toujours des progrès à faire. Il y a eu plein de progrès, parce qu'il y a des feux parlants, les passages sont de plus en plus sécurisés. Mais moi, la chose que je ne comprends pas, c'est lors de notre sortie en ville, tu as eu l'occasion de voir la difficulté à rencontrer avec les différents obstacles, les poteaux mal placés, ainsi de suite. Des fois, j'aimerais bien prendre des élus ou des concepteurs de la ville, pour leur faire faire un tour en ville. Parce qu'il y a...
ce qu'on a fait, nous.
Tout à fait.
Les mettre en situation.
Tout à fait, parce que qu'on mette des poteaux pour éviter le stationnement, c'est très bien.
Oui.
Mais des fois, il y a des poteaux qui ne s'imposent pas en plein milieu.
Ouais.
Ou qu'on mette, au niveau des passages piétons, les stationnements vélos sur le trottoir, au lieu de le mettre sur la belle pelouse qui est juste à côté, je ne trouve pas ça concevable.
Oui, bien sûr. Oui, et puis c'est vrai que là, on a eu affaire à des poteaux qui sont en plus pas très très hauts, hein, qui font 30-40 cm. De haut, et ça, c'est vrai que pour se rétamer, il n'y a pas mieux. Hein.
Ils sont bien placés pour les genoux ou autres.
Ouais, ouais, ouais. Moi, ce qui m'inquiétait aussi pendant cette expérience, c'était les éventuelles trottinettes ou les gens à vélo qui roulent hyper vite dans les rues piétonnes, etc. Ça fait peur parce que tu ne peux pas vraiment, pas vraiment prévoir ça. Hein.
Oui, mais bon, là, avec toi, ça allait parce que, bon, un, je te protégeais de mon grand corps, déjà, parce que j'étais devant. Mais les rues que j'ai choisies, là, je savais que nous allions être relativement tranquilles. Parce que c'est des endroits où, bien sûr, il fallait faire attention, il y a eu des voitures, il fallait se serrer. Mais je savais que ça allait être tranquille. Donc là, j'avais confiance. Mais moi-même, je n'étais pas très rassuré à l'idée de te faire traverser le cours des 50 otages, parce que c'est quand même grand.
Ouais, ouais.
Mais je savais que ça allait être un défi, que j'allais réussir.
Bah, c'est-à-dire que déjà, rien que pour des voyants, ce n'est pas très facile à traverser. Alors bon, effectivement, ça rend les choses plus complexes. Pierre, j'aimerais bien que tu me dises quelles sont les grandes et petites joies de ta vie.
Les grandes joies de ma vie, c'est de partager des moments conviviaux avec les amis.
Ouais.
C'est de jouer au tarot, c'est de chanter, parce que je chante en chorale.
Oui, tu chantes et tu danses.
C'est de faire de la biodanza, en effet. C'est aussi de créer du lien. Parce que régulièrement, on fait appel à moi. Et aussi, je suis un distributeur de rire, donc c'est peut-être pour ça qu'on fait appel à moi. C'est de partager des moments privilégiés avec mes enfants et mes petits-enfants, Ayrton, Aloïs et Emmerich. C'est de jouer au Lego avec eux, j'adore.
Oui.
C'est de prendre soin des gens que j'aime.
Bon, eh ben écoute, moi, les grandes joies de ma vie, c'est de partager des moments exceptionnels avec des gens comme toi. Donc là, j'ai passé un excellent moment, Pierre, et je te remercie de m'avoir accordé du temps. On va terminer cette interview par une de tes chansons préférées, qui est « Bobo » de Salif Keïta. Merci, Pierre.
Merci. Au revoir.